ce panorama est réalisé par Roger de Bouvier avec Jacques Vincent et Laurent Manchetti. 12h45, le cinéma tout de suite. À notre sommaire, Sherlock Holmes, Jules Verne, Arsène Lupin et Louis Popon.
Louis, c'est Christian
Louis. Christian Louis, le photographe.
Les photos, oui. C'est la fameuse énigme Sherlock Holmes, s'appelle Sherlock Holmes et les ombres. C'est la fameuse histoire de Sherlock Holmes face à Madame, comment elle s'appelait ?
Irène Adler,
voilà,
cantatrice de Prague. Alors c'est la traque de Irène Adler par quelqu'un qu'il avait connu, un journaliste qui fait une enquête, et une enquête qui se déroule essentiellement à Prague.
Alors là aussi, c'est un cas de prothésie terrestre, c'est-à-dire qu'on réécrit la fin de cette histoire.
C'est ça, ce que Michel Lebrun a évoqué il y a un instant est ici rentré en application d'une manière, je crois, très virtuose, très habile, avec un contrepoint très intéressant de photographie étrange, où la réalité est essentiellement traitée sur le registre de l'ombre, et où les êtres humains eux-mêmes ont l'air de s'enfoncer comme des ombres.
Est-ce qu'on peut rappeler en deux mots, c'était un scandale en Bohème et une enquête de Sherlock Holmes concernant la cantatrice pragoise Irène Adler qui possédait une photo compromettante pour une tête couronnée dont elle aurait été la maîtresse de la tête couronnée et de l'homme en entier.
Et alors on cherche ce qu'est devenue cette Irène Adler. Et on finit d'ailleurs par trouver ce qu'elle est devenue, une extrémiste. Elle meurt à 84 ans.
Dans cette nouvelle, Sherlock Holmes avait été en quelque sorte roulé, si je puis dire, par Irène Adler, qui était la seule femme.
La femme, d'ailleurs, c'est souligné en permanence. On se demande d'ailleurs si ce n'était pas la femme dont rêvait lui-même, Sherlock Holmes, lui qui est tellement privé de femmes. Il faut souligner qu'elle est morte, Irène Adler, à 84 ans, dans un camp de concentration à Térésine.
C'est la fin inventée par Jean-François Villard. C'est très judicieux.
Elle est très judicieuse, mais vous avez tort de la raconter, parce que ça nous ouvre.
Le travail du dialogue.
Le travail est extraordinaire, parce qu'il nous ouvre, Sherlock Holmes, sur des pistes qui auraient, à mon avis, beaucoup surpris Conan Doyle, qui a exploré beaucoup de choses, mais pas ça, et surtout pas cet univers d'Europe centrale qui était effleuré dans la nouvelle et dans une autre aussi d'ailleurs. Mais il n'avait jamais exploré un certain nombre de pistes, et notamment la féminité, parce que alors ça c'est extraordinaire. On est tellement habitué à ce couple d'hommes et à voir quand même essentiellement Watson dans le rôle de la maîtresse de maison que on ne s'attend pas à voir cette histoire littéralement sulfureuse, et pourtant elle est totalement crédible, et on a le sentiment que Conan Doyle aura pu
l'écrire. La féminité et la politique. Il y a un entretien avec Mazari, qui a une référence aux brigades internationales, il y a le climat nazi en Allemagne, tout ça c'est richement politique dans le texte.
C'est très bien. Jean-François Villard, le texte, Christian Louis, les photos, pour Sherlock Holmes et les ombres, aux éditions du Collectionneur. On termine avec...
Allez, à 10 francs le sac, 10 francs, allons-y, 10 francs le sac de guillot, 10 francs, 2 kilos seulement, allons-y. Allons-y, les ménagères, la guillot pas chère, allons-y. Ah, 10 francs le sac, 10 francs, 2 kilos, 10 francs.
Allez, rien.
La guillot est mal, les guillots, 10 francs, 10 francs seulement, 10 francs.
Vous ne vaut rien, les clochards affamés s'endorment sur les bancs, et de vieilles poupées font encore le tapin à 65 ans. Jour la jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? Moi je ne l'ai jamais vue, elle doit être trop belle pour le premier venu. Jour le jour.
Les petits marchés, nous commençons par les petits marchés qui sont indispensables à la bonne cuisine. Une bonne cuisinière ou un bon cuisinier doit faire lui-même son marché, non ?
Incontestablement, oui. Mais le problème est de savoir si on trouvera encore des bons fruits et des bons légumes. Et c'est d'ailleurs un des problèmes soulevés par ce livre. Ce livre qui est sur les petits marchés, tout à fait dans l'esprit de ce qu'on a entendu, au moins en apparence, puisque c'est ça, c'est la gouaille, allez-y, la ménagère, la bonne salade.
C'est très vert, hein.
C'est très vert, c'est l'accordéon. Et puis en plus, et ça, c'est une grande qualité de ce livre, ce sont des photos en noir et blanc un peu à Douaneau. Et finalement, ce qui est un peu assez encourageant, c'est qu'on a le sentiment que ces marchés ont la vie dure, qu'ils n'ont quand même pas complètement disparu. Et en même temps, ils sont transformés. Ce livre le montre bien, puisque finalement, il n'est pas question tant des petits marchés, sinon au passé du marché de Bussy, que, comme le dit d'ailleurs honnêtement le sous-titre, d'un reportage romanesque, qui est un reportage en réalité sur la carrière d'un grossiste qui a créé un peu partout dans Paris, surtout sur la rive droite, une chaîne de cours des Halles. Donc c'est un petit peu une évolution. C'est quand même plus tout à fait les charrettes des quatre saisons qui dataient de Napoléon et que les veuves des soldats de la grande gendarmes et leurs descendants se traînaient le long des trottoirs. Alors évidemment, l'équivalent de ça, c'est maintenant les contre-boutiques des cours des Halles qui ont gagné sur la préfecture le droit d'avoir des étalages à la manière des marchés, mais malgré tout, c'est des grossistes.
Mais je crois qu'il reste beaucoup de marchés. D'ailleurs, il suffit de descendre aujourd'hui de Radio France, il y a un marché juste en bas, et vous avez des étalages qui sont tout à fait séduisants, avec de très bons fruits, de très bons légumes.
Il y a directement de la campagne ?
On ne peut pas vérifier, mais souvent, vous avez des gens qui vendent des produits qui viennent directement, je crois, de la campagne.
Qui a une entreprise qui vient de se créer à Bordeaux, pas plus tard qu'hier, qui est une entreprise intermédiaire qui va utiliser des chômeurs de longue durée et qui va faire un circuit ultra court des produits, des légumes venant du producteur et immédiatement distribués chez le consommateur le lendemain même.
Oui. Et ce qui est frappant, c'est quand même la grande variété et la multiplicité des produits, car on a des fruits pratiquement maintenant de tous les pays, des légumes que l'on n'avait pas l'habitude de trouver en saison, ce qui fait que je crois que le gourmet a devant lui un éventail de marchés qui persistent et qui sont remarquables. Et j'ajouterais même, ce qui est un peu provocateur, que même dans les grandes surfaces, il y a quelque chose qui est tout à fait attirant.
Ah bon ?
Parce que véritablement, vous avez des produits qui sont pris en gros et qui sont souvent renouvelés, d'où une qualité qui me semble certaine et qui peut rivaliser avec les petits marchés comme
Florence Mosse. Rouge d'Adour, on sait bien que le paradoxe étant le meilleur de ce sommeil intellectuel, il va nous expliquer que la pêche cotonneuse venue d'Italie est bien meilleure que la pêche lineuse venue de Gironde. Mais c'est pas tout à fait vrai, vous savez bien que les légumes et les fruits en surface sont absolument dégueulasses.
Et en plus, c'est quand même...
Je ne suis pas du tout sûr que ce soit dégueulasse.
En plus, là, on parle des marchés de Paris, mais c'est vrai que c'est sur les petits marchés de province qu'on peut acheter encore des noisettes, des forêts au vert, des champignons tout frais cueillis, il y a quand même une qualité. Et puis alors, tous ces légumes qui ont... Les légumes régionaux qu'on ne trouve pas à Paris. On trouve plus facilement à Paris des avocats que des cardons.
Oui, c'est ça. Bien, on en reste là pour ce livre. Donc, les petits marchés de Paris par André Posner et Christian Louis, édition Pierre Lecoeur. Alors, les légumes à présent, justement, parlons-en des légumes avec le...